à CJSO 101.7. La parole est à vous. Place à la tribune. Voici Sylvain Rochon.
Bonjour, chers amis. À l'émission aujourd'hui, la campagne de civilité dans les sports de la MRC de Pierre de Sorel. Peu importe le sport, vous êtes son modèle. On va discuter de cette campagne-là qui nous rappelle que le sport, ce n'est qu'un jeu. Avec Vincent Deguise qui préside le comité régional en développement social de la MRC, Véronique Massé qui est coordonnatrice de la politique familiale et des aînés de la MRC, Guillaume Thibault, responsable des arbitres et vice-président de l'Association de baseball amateur du Bas-Richelieu, Luc Dionne, un parent très, très impliqué, Marie Ouellette, conseillère en promotion de la santé au CLSC Gaston Bélanger, Bianca Provençal, technicienne en loisirs à Sainte-Victoire de Sorel, Pierre-Paul Gervais, directeur général du club de soccer du Bas-Richelieu, et Harold Turbide, connu comme Barabas dans la passion, prof d'éducation physique et coach au football scolaire. Alors, on s'interrompt quelques instants et au retour, le début du match.
Recyclez votre métal pour de l'argent? Pourquoi pas? IM Recyclage Sorel est maintenant ouvert et c'est payant de venir souvent du 21 mai au 17 juin. Chaque visite augmentera vos chances de gagner l'un des trois prix d'une valeur totale de 1000 $. Nos gagnants seront dévoilés samedi le 18 juin lors de l'ouverture officielle. Barbecue, musique, prix sur place seront offerts. Votre barbecue, votre réservoir d'eau chaude, vos électros ne fonctionnent plus? Recyclez-les pour de l'argent. Nous avons hâte de vous rencontrer. IM Recyclage Sorel, 265 rang Bellevue Nord, Saint-Robert.
À CJSO 101.7, avec Sylvain Rochon. De retour à la tribune.
Alors, on va passer cette émission à parler de sport. Il y en a eu du sport les dernières semaines à la tribune. Ben, il va en avoir encore aujourd'hui. Ça va être un sport un peu différent. On va rappeler, comme je le disais en ouverture, que le sport, ce n'est qu'un jeu, ce que tous ne semblent pas savoir. On va ouvrir le match avec Vincent Deguise et Véronique Massé, respectivement président du comité régional en développement social de la MRC de Pierre de Sorel et coordonnatrice de la politique familiale et des aînés. Alors, bonjour à l'un et à l'autre.
Merci. Bonjour, Sylvain.
Je vais d'abord m'écarter du sujet précis aujourd'hui, Vincent, et vous inviter à me dire... pas qu'est-ce que vous pensez de ce qui passe à Sorel. Énervez-vous pas, là. Non, je veux vous inviter à me dire quelle est la mission du comité régional en développement social que vous présidez et qui siège à ce comité-là.
Le comité régional en développement social regroupe l'ensemble des municipalités de la MRC. Donc, il y a un représentant par municipalité. Ce sont les représentants des questions familiales et des aînés. Chaque municipalité nomme un conseiller, une conseillère. Parfois, c'est le maire aussi qui siège au comité régional, qui traite de tous les enjeux de développement social sur le territoire, d'amélioration de la qualité de vie des citoyens ici sur le territoire de la MRC de Pierre de Sorel. On a lancé, il y a quelques mois, notre politique de développement social qui traite de plusieurs sujets, que ce soit le logement, le transport, la famille, les aînés, entre autres, qui sont nos premiers, la première mission du comité régional en développement social, qui était auparavant le comité de la famille et des aînés, donc le porteur de la politique familiale, porteur de la politique des aînés sur le territoire de la MRC.
Et cette fameuse politique-là, là, c'est plus qu'un ramassis de vœux pieux, ça représente la volonté du conseil de la MRC, là, puis de ses partenaires.
Exactement.
On n'écrit pas ça là, parce que c'est cute.
On n'écrit pas ça juste parce que c'est beau puis parce que c'est rempli de plein de bonne volonté. Non, on l'écrit parce que ça donne la vision de ce que veut faire la MRC de son territoire, dans quel genre d'MRC on veut que nos citoyens évoluent ici dans Pierre de Sorel. On est à l'étape actuellement de faire notre plan d'action qui va accompagner notre politique de développement social. Donc, dans les prochains mois, on va arriver avec le plan d'action. Qu'est-ce qui sera développé par le comité régional et ses partenaires aussi pour le développement social ici?
OK. Et bien, vous, Véronique, vous coordonnez la politique familiale et des aînés à la MRC.
Mais en fait,
vous manquez pas de job.
Non, du tout. Non, loin de là. En fait, c'est un titre que j'ai depuis plusieurs années à la MRC. J'accompagne aussi, bien entendu, le Comité régional en développement social. Là. Donc, mon rôle est vraiment lié au développement social au sens large. Vincent l'a bien nommé, là, autant la famille, le citoyen, les aînés que, dans le fond, là, tout ce qui est lié au transport, la vie communautaire, l'habitation. Donc, c'est ça.
Bon, la MRC a donc lancé cette campagne de civilité dans les sports. Qu'est-ce qui vous a inspiré cette campagne-là? Auprès de qui avez-vous trouvé confirmation qu'il valait la peine de la tenir, cette campagne-là, que ça pouvait jouer rough sur les terrains et dans les estrades? Comment...
Bien, en fait, c'est une longue histoire parce que c'est une campagne
qu'on... Contez-moi la longue histoire.
Oui, avec plaisir. Donc, c'est une campagne qu'on développe depuis plusieurs années. Je vous explique pourquoi. En fait, initialement, ça vient du Comité pour le plaisir de bouger, de bien manger, où la MRC était impliquée là, depuis le départ. Et dans ce comité-là, on avait développé un projet qui s'appelait « Vous êtes son modèle », où on rappelait, dans le fond, au niveau des saines habitudes de vie, le rôle du parent en tant que modèle envers son enfant. Et on a voulu, en fait, le sortir du 0-5 ans parce que ça a été bien reçu dans le 0-5 ans. On a travaillé fort. C'est des images, des messages qui ont été portés partout sur le territoire. Puis on se dit, il faut faire évoluer, dans le fond, cette campagne-là. Et c'est quoi l'objectif? C'est quoi la priorité au niveau de nos 6-12 ans? Et là, tout de suite, la question du sport est sortie. On en parle depuis des années à quel point c'est important le modèle qu'on a en tant que parent envers le sport.
Mais on vous a dit ça, là, que ça jouait rough dans ces terrains, que ça jouait rough dans les estrades, qu'on criait des noms aux arbitres, aux entraîneurs.
Tout à fait.
Ça n'avait pas d'allure.
Mais je vous dirais que, tu sais, au départ, c'était un peu anecdotique dans le sens que tout le monde avait une histoire où on avait vraiment l'impression que c'était une réalité. Puis plus on parlait à des gens, plus on se rendrait compte qu'effectivement, on a des choses à faire au niveau de la civilité dans les sports. Puis au-delà de l'aspect de la civilité, du modèle, du rôle de parent, dans le fond, dans l'estrade, c'est aussi de se rappeler que le sport, jusqu'à très loin dans l'âge, là, c'est un jeu. On est là pour le plaisir. Puis si on veut que nos enfants, ils grandissent en étant actifs, bien, il faut qu'il y ait du plaisir. Donc, c'était vraiment important pour nous de ramener aussi la notion de plaisir.
Ouais, mais le plaisir. C'est bien beau, le plaisir, mais... Ton gars, tu veux qu'il devienne Guy Lafleur s'il joue au hockey? Tu veux s'il joue au football qu'il devienne Laurent Duvernay-Tardif? Puis je pourrais multiplier les exemples. On veut beaucoup pour nos enfants. Oui. On veut parfois trop. Mm. Ouais.
Ouais.
Vincent?
C'est peut-être ça.
Toi, ta mère, t'as-tu poussé à faire de la politique? Ton père?
Pas du tout. Ça a été... J'ai été supporté. Ça, par contre, mes parents m'ont toujours supporté dans ce que j'ai fait. Mais au niveau du sport, moi, je n'ai pas été un grand sportif de nature.
Mon Dieu, que tu m'étonnes!
Mais j'en ai fait. J'ai fait plus du sport individuel, du ski, tout ça. Quand j'étais plus jeune, j'en fais encore aujourd'hui. Un peu moins l'aspect compétitif. J'étais plus compétitif en politique que dans le sport. Mais on le voit des fois, les parents qui veulent plus que leurs enfants, qui veulent qu'ils se rendent pour eux, puis on les comprend d'une certaine façon. C'est une fierté pour eux de voir leurs enfants aller le plus loin possible, mais il faut aussi respecter la volonté de ce jeune-là. Quand il commence à jouer au soccer l'été, là, il le fait pour s'amuser, il le fait pour jouer avec ses amis, pour rencontrer d'autres jeunes avec qui il va partager une passion pour ce sport-là. Puis c'est ça qui est sain. C'est ça qui est...
Bon, alors, les parents, là, parlons concrètement, là, qu'est-ce qu'ils doivent faire et ne font pas pour certains pour constituer un modèle pour leurs enfants?
Oh mon Dieu, c'est une grande question.
Tu vas répondre, je sais, j'ai confiance. Mais je ne te pousse pas trop,
en fait,
là.
Non, c'est ça. On n'a pas trop de pression, on est là pour le plaisir. Non, mais en fait, c'est une réponse complexe parce que quand on s'intéresse aux parents, c'est tellement complexe, c'est la bonne réponse. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Bien, initialement, je pense que nous-mêmes, on se doit d'être actifs, d'avoir du plaisir et de le pratiquer. Puis je me souviens que dans les dernières semaines, j'ai vu des publications sur l'importance aussi de pratiquer différents sports, de pas se spécialiser, d'amener la notion de plaisir toujours. C'est tellement... Le modèle en tant que parent, c'est dans tous les choix qu'on fait, en fait, on est le reflet pour nos enfants de ce que c'est un adulte. Puis ce que j'avais envie d'ajouter aussi, ce que Vincent disait, c'est quand on s'intéresse, puis ça, on pourra l'explorer avec les invités aujourd'hui, mais quand on s'intéresse au développement d'un athlète, Mais la notion de performance, elle vient seulement tard dans l'adolescence. Et c'est pas, on voudrait tous avoir des Marc-André Fleury et des Guy Lafleur, mais c'est pas ça la réalité.
Je m'excuse de pas avoir nommé Marc-André Fleury.
Ah, écoute.
Colin, là, je le sens cheap. Je suis un petit
peu
déçue.
Ma fierté ouais. régionale. Mais
Guy Lafleur, où je m'en vais avec mes patins, voilà.
En fait, il y a une question d'âge aussi. Hein. Moi, je parle de Marc-André, vous parlez de Guy Lafleur.
Ouais, c'est très gentil d'avoir ajouté ça. Très, très gentil.
Ça manque un peu de civisme, hein? Tu comprends? On va passer par-dessus l'âgisme ce midi. Là.
Oui, c'est ça. On reviendra en reparler.
Bon, alors, là, Vincent et Véronique, moi, ce que je retiens, là, c'est que des parents qui engueulent l'arbitre, qui pestent contre l'entraîneur, qui eut les mauvais jeux, qui, pour résumer, là, pourrissent l'atmosphère des matchs, il y en a.
Il y en a.
Il y en a.
Il y en a, puis ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'impact, on parle beaucoup depuis tantôt de l'enfant, mais l'impact du comportement des gens dans l'estrade, c'est beaucoup plus grand que l'enfant. Ça va aussi sur la volonté des jeunes de devenir arbitre. Ça va aussi au niveau de la volonté des parents de devenir entraîneur. Tu sais, les arbitres, là, puis on aura l'occasion aussi d'en parler, mais c'est pas, ils gagnent pas des millions pour être présents là, sur le terrain. Ils le font de bonne foi. Avec toujours la meilleure des, ou en tout cas, la grande majorité du temps, la meilleure des intentions. Et c'est, ils ont un rôle important à jouer, puis on en perd des arbitres. On a de la difficulté à recruter les arbitres.
On va parler à un arbitre dans pas long. Là, mon standardiste va placer l'appel. La campagne se déploie dans quelle municipalité, à travers quel sport, comment? Est-ce qu'elle va connaître des moments forts? Comment ça va marcher?
Bien, en fait, la campagne, c'est une campagne qui se développe à travers la MRC. Il y a des pancartes qui ont été affichées là, pour rappeler, dans le fond, les grandes lignes là, de la campagne partout sur le territoire de la MRC. Pour l'été, on a ciblé vraiment le soccer et le baseball. C'est vraiment les deux sports qui sont ciblés. Ensuite, dans le fond, on est déjà en train de travailler sur la campagne au niveau de l'automne qui va cibler, dans le fond, le hockey, les arénas. Donc, on parle du hockey, mais il y a aussi le patinage artistique, donc tous les sports plus hivernaux. Et à la suite de ça, dans le fond, on vise
aussi...
Mais ça,
le patinage artistique, ça doit moins gueuler dans les estrades.
Bien, je vous dirais...
Ça fait chic quand même, le patinage artistique, non?
Bien, je vous dirais que...
J'ai tort.
Ben oui, en fait. Ouais. c'est un préjugé que j'avais moi aussi, j'avais l'impression.
Ben oui, toi aussi, hein?
Ben oui, tout à fait. Puis j'ai quelqu'un qui est près de moi dans l'environnement là, au niveau de la politique municipale qui me disait à quel point c'était surprenant ce qu'on pouvait entendre dans les estrades au niveau du patinage artistique.
C'est pas toujours très artistique.
Non, c'est pas toujours très artistique.
Alors, ce que vous souhaitez, c'est que les enfants apprennent tôt là, à favoriser un climat de respect, de
tout
reconnaissance. Vous voulez voir résolument s'installer un esprit d'équipe et que la notion de plaisir soit favorisée dans les sports. Est-ce que
exact.
Je comprends bien ma leçon?
Yes.
C'est bien ça.
OK. Alors, écoutez, on va aller parler à un arbitre. On va aller parler à un arbitre. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà, il est au bout du fil. On rejoint au téléphone Guillaume Thibault. Il est responsable des arbitres et vice-président de l'Association de baseball amateur du Bas-Richelieu. Salut, Guillaume.
Salut, ça va bien?
Ça va bien. Vous êtes un tout jeune arbitre. Quel âge avez-vous, Guillaume?
J'ai 19 ans.
19 ans. Qu'est-ce qui est le plus difficile? Est-ce que c'est se faire respecter par les jeunes joueurs ou se faire respecter par les parents des jeunes joueurs?
Non, c'est plus les parents parce qu'écoute... On commence assez de bonheur à arbitrer là, vers 14-15 ans. Là. Fait que c'est sûr de se faire respecter à des adultes. Là. C'est souvent la première expérience de travail des jeunes. Fait que non, les parents, c'est définitivement difficile.
Là. Ah ouais. Est-ce qu'il vous est arrivé de vous dire « Moi, là, je lâche tout ça. Je suis pas ici pour me faire écœurer, me faire engueuler. Je suis plus capable. Trouvez-vous-en d'autres arbitres. Ce sera pas moi. »
Ben c'est sûr qu'on y pense. Moi, j'ai commencé à arbitrer par l'amour du sport. Là. Fait que c'est sûr qu'après une couple de parties, là, des fois, là, tu fais ouf. Celle-là a été difficile. Puis tu te remets un peu en question, mais tu l'oublies, tu tournes la page, puis on pense à d'autres choses pour la prochaine.
Vous dites-vous que ça fait malheureusement un peu partie du job que d'être contesté quand on arbitre dans un sport?
Ouais, c'est sûr que tu sais, faut que tu sois capable de faire face un peu à la musique parce que tu sais, c'est quand même le sport là. Puis moi, j'ai joué beaucoup là au hockey puis au baseball. C'est assez émotif là. Fait que les joueurs, les entraîneurs, il il y a beaucoup d'émotions sur le terrain, fait que des fois il y a des choses qui s'arrivent, puis faut être capable de faire face à la musique.
Vous avez été joueur. Est-ce qu'il vous est, on le répétera à personne, là, arrivé d'avoir un petit mot de travers pour un arbitre?
Ben oui, ça arrive à tout le monde. Puis moi, quand j'arbitre, je comprends les joueurs parce que c'est émotif. On mettons, au hockey, on appelle une punition. Quand ça reste dans le respect, on peut avoir un peu d'argumentation. Mais les parents qui sont pas sur le terrain ou sur la patinoire, ben, ils devraient avoir un pas de recul.
Un pas de recul. Faudrait peut-être reculer les bancs. Ils sont peut-être trop près, trop collés ouais, les uns sur les autres. Je sais pas trop ce qu'il faudrait faire. Vous êtes, je disais, le responsable des arbitres. Alors, j'imagine que vous avez à les coacher, à les encourager. Est-ce que vous en voyez qui remettent leur démission plus capable de supporter la pression des parents dans les estrades?
Non, ça arrive rarement parce qu'on essaie de bien les encadrer puis d'aller les superviser, de les assister dans leur première partie parce que je leur dis toujours, moi j'en fais des erreurs puis vous allez en faire des erreurs, c'est des choses qui arrivent. Puis c'est comme un arbitre, c'est comme un joueur. Il y a une progression pour aller peut-être arbitrer dans du plus haut niveau. Fait que au départ, c'est plus difficile, mais c'est une progression comme un joueur, là.
Est-ce que l'arbitrage de tous les sports est également difficile ou s'il y a des sports plus difficiles que d'autres?
Ben, je peux parler pour le hockey puis le baseball. Là, c'est sûr qu'on a une difficulté à recruter des arbitres. Puis même des fois, c'est peut-être un peu avec les parents aussi, ils ont une certaine réticence d'envoyer leurs jeunes arbitrer parce qu'ils sont témoins de des événements. Puis là, ils font comme est-ce que j'enverrais mon garçon arbitrer? Fait que c'est sûr que c'est difficile. Fait que si on n'arrête pas certaines choses, ben c'est sûr qu'ils vont en manquer. Là.
Est-ce que c'est plus dur au hockey qu'au baseball? Plus dur au baseball qu'au hockey?
Non, je vois pas de différence là. Pas nécessairement.
Là, je viens de vous entendre dire, puis qu'est-ce que vous m'avez dit, 20 ans, 19 ans? 19 ans. Je viens de vous entendre dire, c'est pas tous les parents qui, assistant au match, ont envie de voir leur garçon arbitrer les matchs. Il n'y a pas de fille qui arbitre? Il n'y a pas de fille arbitre?
Ah, ben, c'est plus rare, mais oui, j'en ai connu une au baseball. C'est plus rare, il aime mieux marquer, là, mais oui, il peut avoir des arbitres filles.
Et pourquoi aiment-elles mieux marquer? Justement parce qu'elles n'ont pas le goût de subir la pression des parents, de certains spectateurs plus hargneux?
Peut-être, c'est sûr que marquer, on est moins sur le terrain, moins sur le focus. Là.
Je comprends. La campagne de civilité dans les sports, elle a lieu d'être, Guillaume? Il était temps qu'on y pense?
Ah oui, c'est sûr que ça ne fera pas de mal là, de rappeler aux parents que c'est un sport où c'est émotif, mais le jeune, il faut qu'il ait du plaisir, là, ça c'est sûr, parce que ça va être comme ça qu'il va progresser.
OK. Hey, merci beaucoup, ça a été très intéressant de jaser.
Merci beaucoup.
Merci, salut, à la prochaine.
Bon, à la prochaine.
Luc Dionne est, lui, un parent impliqué au hockey. Bonjour, Luc.
Bonjour.
Vous avez travaillé au loisir aussi, vous?
Oui, dans une ancienne vie.
Dans une ancienne vie?
Oui.
C'est pas à Sainte-Victoire?
Oui.
Ah, me semblait bien. Alors, on va entendre tantôt votre successeur. Je ne sais jamais si je dois dire successeur, successrice, je suis mêlé là-dedans. En tout cas, on va entendre Bianca Provençal. Le hockey, sport emblématique des Québécois, qui a soulevé les passions de plusieurs générations de Québécois, est-ce qu'il soulève les passions dans nos arénas et est-ce que ce sont toujours de saines passions, Luc, qu'il soulève le hockey?
Bien, que ça soit autant au féminin qu'au masculin, parce que moi j'ai ma fille qui joue au hockey aussi avec les
bon.
Filles. Puis je pense que les passions sont tout le temps là. Les officiels se font brasser à quelques reprises pendant les games. C'est quelque chose qu'on voit assez régulièrement dans les estrades là, au hockey.
Voyons donc. comment ils se gèrent, les parents en crise à Sorel-Tracy, les parents qui se contrôlent pas, qui engueulent le coach, l'arbitre, les joueurs, les partisans de l'autre équipe, comment on les gère?
C'est une bonne question. Moi, je sais que personnellement, je me retire, je les laisse s'assiner tout seul. Moi, je suis pas quelqu'un qui intervient. C'est très rare que je vais crier après les arbitres, là. De toute façon, moi, j'ai le dicton qui dit, puis je le passe à mes enfants, puis je pense que mes enfants ont compris, là, un arbitre, c'est comme une maman, ça a toujours raison. Fait que de cette façon-là, ils s'assinent pas longtemps.
Véronique, elle la trouve bonne. Elle trouve que c'est excellent. Excellent. Ouais, ouais.
Ben, c'est ça, mais c'est pas tout le temps édifiant là, qu'est-ce qu'on entend dans les estrades, tant au masculin qu'au féminin. Là.
OK. Dans mon temps à moi, avant que Véronique le dise, c'était papa qui avait raison dans le fameux téléroman.
Oui, c'est ça.
Papa a raison. Bon, les jeunes dont les parents agissent mal dans les estrades, qui engueulent le coach, l'arbitre, les joueurs, les partisans de l'autre équipe, les jeunes de ces parents-là, ils n'ont pas le goût d'entrer dans le vestiaire puis de plus en ressortir jamais. Il y en a qui doivent avoir honte, c'est comme rien. D'autres qui doivent être contents, je comprends. Qui disent, hey, papa, il prend pour moi, puis je te dis que lui, on l'entend crier pour l'équipe. Mais il y en a d'autres qui doivent être gênés, non?
Bien, sûrement. Je ne sais pas pour les autres. Moi, je sais que mes enfants, quand ils sont sur la glace, ils me le disent. Là, aujourd'hui, les parents étaient assez intenses. Ils me le disent même. Eux autres, ils l'entendent très bien. Fait que c'est sûr que tout le monde l'entend. Ils me disent même, des fois, le parent d'un tel est en feu aujourd'hui. Mais je ne sais pas comment l'enfant le vit dans la chambre ou jase avec ses parents parce que j'ai pas d'écho par la suite. Là. Puis moi, je l'ai tout le temps dit à mes enfants, là, les arbitres, là, c'est eux autres qui mènent le show. Puis s'ils ne sont pas là, on joue pas. Vous ne pourrez pas jouer au hockey s'il n'y a pas d'arbitre, tout ça. Fait que on a inculqué à nos enfants là, que les officiels, ça fait partie du jeu, ils vont faire des erreurs. Puis mes enfants, quand ils jouent au hockey, ils font des erreurs parce que tu sais, moi, ils jouent à différents sports. Là, ils jouent au deck, au baseball, au hockey, au soccer. Fait que toutes les fois qu'ils sont sur une surface de jeu, ils vont faire des erreurs, mais il n'y a pas personne qui crie après eux autres à toutes les fois qu'ils font une erreur. Puis c'est pas vrai que je vais accepter mes enfants crier après les arbitres. Puis de cette façon-là, ben je le fais pas moi-même. Je pense que c'est la meilleure solution parce que pas d'arbitre, on joue pas.
Si on pense avoir un Marc-André Fleury, je fais plaisir à Véronique, à la maison, on fait quoi pour le pousser, mais tu sais, le pousser égal? Non, mais tu sais, le parent qui a un Marc-André Fleury à la maison, ça se peut qu'il y ait de la misère à se dire le sport, c'est juste un jeu de même. Ça se peut qu'il se dise le sport, c'est l'avenir de mon garçon ou de ma fille. Alors, on fait quoi pour pousser son garçon ou sa fille là, égal là, pour le ou la motiver comme il faut?
Je pense que c'est de s'asseoir avec lui puis de jaser beaucoup à la maison sur le développement, sur lui, qu'est-ce qu'il veut, parce que des fois, il y a beaucoup de parents qui poussent puis que l'enfant n'a pas vraiment d'intérêt ou peut-être que l'enfant va dire, ben moi, je veux juste jouer au hockey puis c'est bien correct ou autre sport. Je pense qu'une bonne discussion pour commencer puis c'est de prendre ça relax un peu dans les estrades parce que même si tu cries puis tout ça, ben c'est pas ça qui va faire que ton joueur va être meilleur, ton gars va être meilleur ou ta fille va être meilleure dans un sport. C'est d'aller chercher des ressources après ça. Si vraiment vous développez, ben c'est d'aller chercher des ressources à l'externe qui va permettre de développer l'athlète, mais c'est pas en criant ou en chicanant avec tout le monde que l'enfant se développe là-dedans.
Hey, merci Luc, t'as été bon en tabarouette.
Ah, ça fait plaisir.
Hey, tu fais vraiment un bon invité. Je l'ai, là, je motive bien, hein, c'est pas pire. Alors, de l'autre côté de la pause, merci Luc encore, de l'autre côté de la pause, je me retourne à nouveau vers Vincent et Véronique, puis je parle à Marie Ouellette et Bianca Provençal. À tout de suite.
Jusqu'au 1er juillet, CJSO vous invite à participer au concours « As-tu ton logo CJSO sur ton auto? » En magasinant chez les commerces participants, on vous remettra un logo CJSO. Vous serez éligible au tirage de 5 prix de 100$ en essence. CJSO vous invite à afficher vos couleurs en collaboration avec GMS Autoclinique, Daniel Suspension, Location FGL et le garage La Chapelle. Le tirage aura lieu le lundi 4 juillet lors de l'émission Valérie l'après-midi. CJSO vous souhaite bonne chance.
Depuis quelque temps, une nouvelle race chevaline a fait son apparition au Québec. Vous l'avez peut-être aperçue traversant lacs et forêts. Une espèce majestueuse taillée pour l'aventure, avec sa capacité de chargement polyvalente, à l'épreuve des conditions les plus hostiles, avec ses modes de conduite goutte et sa transmission 4x4 de série.
Découvrez votre côté sauvage à bord d'un Bronco Sport 2022. Obtenez-le à partir de $37 646. Pour les détails, visitez votre détaillant Ford.
L'événement La Boucle du Grand Défi Pierre-Lavoie aura lieu ce samedi 11 juin à Sorel-Tracy. À cette occasion, des milliers de cyclistes traverseront les rues de la ville, ce qui occasionnera plusieurs fermetures de rues entre 5h et 20h. L'accès aux traversiers sera limité ce samedi 11 juin et le pont Turcotte sera pour sa part fermé à la circulation automobile. Pour tous les détails, consultez le site web de la ville à ville.sorel-tracy.qc.ca ou contactez le Grand Défi au 1-844-818-4333.
3, 7, 5. À CJSO 101.7 avec Sylvain Rochon. De retour à la tribune.
On s'intéresse au sport chez nos enfants ce midi à la tribune et la manière d'agir pour leur inculquer de belles valeurs. Cette émission a pour point de départ la campagne de civilité dans les sports que mène la MRC de Pierre de Sorel. Sa coordonnatrice à la politique familiale et des aînés, Véronique Massé, est avec nous en studio, de même que le président du comité régional en développement social, Vincent de Guise. Vous avez entendu Guillaume, responsable des arbitres, vice-président de l'Association de baseball amateur du Bas-Richelieu. Ils l'ont pas facile, les arbitres, il faut être fait fort. Hein?
Tout à fait.
Non, c'est vrai, c'est une tâche ingrate, hein, l'arbitrage dans le sport. Ils en entendent
de toutes les couleurs,
de toutes les sortes. Puis, et moi, ce que je me disais souvent, c'est ça, c'est des jeunes. Guillaume, il a 19 ans, il a commencé à 14 ans. Il doit en avoir entendu
des vertes puis des pommures
venant des parents, venant des estrades. Des fois, des jeunes sur le terrain de sport aussi, parce que si le parent dit quelque chose dans les estrades, ben le parent, ça vient, la campagne, c'est ça. Quel exemple on donne à nos enfants, puis quel comportement on...
D'où l'expression « le modèle ».
Oui,
vous
exact,
êtes
exact.
Son modèle. Oui. Alors, l'enfant joueur d'un parent spectateur agressif, mal engueulé, il risque tout de bien de lui aussi irrité de ce comportement-là.
Je pense que Luc l'a très bien expliqué aussi. Tu sais, quand il disait, Luc Diane, exactement, quand il disait, ben moi, j'ai inculqué à mes enfants que l'arbitre, c'est le maître de cérémonie, c'est le maître du jeu, puis si on n'a pas d'arbitre, ben on n'a pas de game, donc on se doit de respecter. Puis dans le fond, tu sais, le respect envers l'autorité, mais c'est bon pour tout le monde. Là. C'est bon au niveau de l'enseignant de nos enfants, c'est bon envers l'arbitre et tout. Donc nous, en tant que parents, on se doit de respecter aussi parce qu'on est un modèle, puis ce qu'on a comme comportement. Tu sais, comme j'ai une partenaire là, de la région de Pierre-de-Sorel qui va se reconnaître, qui dit bien, il faut que les babines suivent les bottines et vice-versa. Mais c'est aussi ça, quand on a un comportement envers un arbitre en tant que parent, mais c'est d'être le modèle, en fait.
Bon, mais comment agit-on auprès de parents aigris là, dans les estrades? Comment leur apprendre à se calmer? Nous, comme co-spectateurs ou co-spectatrices d'un match, on fait quoi, là?
C'est pas
on
facile.
On nous rend mal à l'aise, mais on leur dit-tu « calme-toi » ou « tranche-toi », qu'est-ce qu'on fait quoi? On fait quoi? Luc n'a pas l'air de savoir, je lui ai posé cette question-là, puis il dit
c'est tellement difficile, parce que là, on rentre dans la relation interpersonnelle. Tu sais, nous, en tant que spectateurs, on est là pour encourager notre enfant, on est là pour encourager l'équipe. Est-ce qu'on a envie de gérer un conflit? Est-ce qu'on a envie c'est difficile, tu sais, des fois, là, je vais prendre une autre expression de ma mère qui dit, là, j'ai un blanc de ce que je voulais dire,
c'est pas bien. Qu'est-ce que sa mère dit?
Le plus intelligent des deux, en fait, il s'implique pas dans le sens, ce qu'elle voulait dire, c'est que des fois, d'être le modèle, puis de montrer c'est quoi l'attitude à avoir, mais c'est difficile, j'ai pas de réponse adéquate, j'ai pas de réponse évidente, parce que ça dépend tellement de la personnalité du spectateur, puis le désir de s'impliquer ou non, mais d'être un modèle, puis de laisser faire les autres, de pas embarquer minimalement dans la situation, je pense que c'est la base. Là. Ouais.
D'en parler comme on le fait aujourd'hui, puis comme ça se fait avec les associations de parents, les associations d'hockey, dans les associations de baseball, de soccer, d'en faire une espèce de modèle de prévention là, pour que nos parents adoptent des comportements sur les terrains qui vont être adéquats pour nos jeunes.
En fait,
jeunes,
c'est développer la norme.
Développer la norme.
Tu sais que la norme, ça soit d'être un modèle.
C'est
ça
le parent qui
ne
rit pas, c'est le parent qui encourage l'entraîneur, qui a de bons mots pour les joueurs.
Puis tant que l'enfant, dans son sport, va avoir du plaisir, je pense qu'il va être motivé, il va vouloir poursuivre. Oui. Tu sais, il faut garder la notion de plaisir. Puis c'est l'enfant qui a le gros bout du bâton. Je suis certain pour Marc-André, bon, les oreilles doivent y sciller, mais tu sais, Marc-André, je suis pas certaine.
On l'a au bout du fil, non?
Oui, c'est ça! Tu sais, tous les joueurs professionnels, je suis pas mal certaine qu'ils ont du plaisir et que c'est la base. Puis après ça, il y a d'autres éléments qui s'ajoutent. Mais si on maintient pas ça, puis qu'on n'entretient pas ça, bien, je suis pas sûre qu'on va avoir des athlètes professionnels de toute façon.
Non, puis Guillaume le disait tantôt, on en fait des erreurs. Mm. Puis dans notre vie de tous les jours, au travail, ça arrive qu'on en fait des erreurs, mais on parle pas n'importe comment à notre collègue parce qu'il a fait une erreur. On peut s'en rendre compte, on peut l'expliquer, il y a une façon de le faire. C'est pas le parent dans l'estrade qui va crier après l'arbitre parce qu'il n'a pas vu le but de son jeune ou il pense que l'autre aurait dû avoir une punition puis l'arbitre l'a pas donné. Ben c'est pas en criant que ça va régler le problème là. C'est pas en... il y a une façon de le faire. L'arbitre qui est là, le jeu est en cours, c'est le maître du jeu. Il faut le laisser aller. Puis Luc disait tantôt, puis ça m'a marqué. On l'entend régulièrement. T'sais, on entend régulièrement des parents qui vont dire, qui vont insulter, qui vont crier après les arbitres. Donc c'est comme si notre norme était rendue de l'autre bord là. T'sais, notre norme, c'est de parler de façon inadéquate. C'est assez, en tout cas, je pense, assez inquiétant.
Madame, monsieur, là. Je vais vous interrompre. Oui. Un coup de sifflet. On va aller rejoindre Bianca Provençal. Oui. Imaginez-vous, on a perdu Marie Ouellette. On ne sait pas où elle est rendue.
Ah.
Alors, Marie, si tu nous écoutes, on tente de te joindre. En attendant, Bianca Provençal est au bout du fil. Bonjour, Bianca.
Bonjour, ça va bien?
Ça va très bien, toi?
Ben oui.
Alors, tu es technicienne en loisirs à Sainte-Victoire-de-Sorel. Quel sport on pratique à Sainte-Victoire-de-Sorel? J'essaie de passer mentalement en revue là, vos installations. Je sais qu'il y a le deck hockey là, dont est très fier le maire, là, le maire au coin, mais à part ça, il doit y avoir du soccer. Et...
Oui, on fait partie de la Ligue des Patriotes pour nos équipes de soccer, puis on a du deck hockey qui sont pratiqués là, durant toute la saison estivale.
Vous avez, à Sainte-Victoire, Bianca, élaboré un code d'éthique que les parents de joueurs doivent signer. Que comporte ce code-là?
Oui, bien en fait, depuis 3 ans environ, quand on a commencé à faire la ligue récréative, on cherchait en fait une façon pour que le jeu demeure, tu sais, un jeu, puis que la ligue récréative vive dans un climat simple et agréable pour les jeunes. Fait qu'on a comme adopté une politique avec des règles simples, là. Puis
par exemple, les règles simples.
Donc, le code d'éthique du joueur, ben c'est jouer pour s'amuser avant tout, connaître les règles, puis respecter le jeu, éviter toute forme de violence. Reconnaître la victoire de l'adversaire, accepter la défaite avec dignité. Reconnaître le droit aussi à l'erreur des arbitres et accepter leurs décisions. Être ponctuel, puis respecter les décisions des entraîneurs. Du côté des parents, on encourage son enfant de jouer avec pour le plaisir, puis respecter ses limites aussi, puis agir en tant que modèle. Donc, ça rejoint beaucoup la campagne, comme on peut voir. Éviter toute forme de violence envers l'entraîneur, les arbitres, les joueurs. Reconnaître le droit à l'erreur des arbitres, puis accepter leurs décisions. Puis reconnaître que l'entraîneur est seul à diriger lors des parties, puis des pratiques.
OK, bien c'est intéressant. En cas de violation du code, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu? Tu sais, il y a un code, mais là... J'imagine que désobéir au code, ça doit entraîner de quoi, non?
Oui, bien en fait, c'est sûr que, tu sais, tout d'abord, l'arbitre est avisé, les entraîneurs gardent ce code d'éthique avec eux dans un cartable respectif à chaque équipe. Puis si, tu sais, l'arbitre, exemple, au soccer, on donne un carton, bien, tu sais, si ça va plus loin, puis tout ça, bien là, on sort... T'sais, ça peut aller jusqu'à l'expulsion du parent ou du joueur. On va pas, si un joueur est correct dans l'ensemble, mettons, du jeu, mais que c'est le parent qui est comme qui est pas correct au niveau de son éthique dans la partie, ben ça va être le parent qui va devoir quitter. On va le montrer qu'il avait signé.
OK.
Le code d'éthique. Là.
Je comprends. Est-ce que vous avez vu le comportement des parents changer après l'apparition du code?
Ben quand même, ben il y a beaucoup de parents qui nous ont dit wow, c'est génial comme de voir ça, de voir signer, lire avec le jeune aussi pour l'éduquer là aussi à ce niveau-là. Puis on a eu quand même des bons... beaucoup de parents qui ont apprécié là, cette façon de fonctionner-là.
Ben, bravo pour cette idée, elle est excellente. Merci beaucoup,
merci
Bianca.
Beaucoup.
Merci. Salut. Merci.
Au revoir.
On a retrouvé Marie Ouellette. On était inquiets. On était à veille de penser à une alerte en vert. Marie Ouellette est conseillère en promotion de la santé au CLSC. Gaston Bélanger, bonjour Marie.
Bonjour tout le monde.
Donc, il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Vous n'étiez pas loin.
Non, non, j'étais juste pas dans le bon bureau. On ne m'appelait pas à bonne place.
Ah, OK. On est de nature inquiète. Qu'est-ce que vous voulez? On peut décourager un enfant à pratiquer un sport en manquant de patience, de bienveillance, en lui mettant trop de pression?
Ben oui, ou les d'autres petits poux sur le terrain peuvent être découragés d'entendre tous ces commentaires-là qui viennent de la foule sans que ce soit son parent lui-même. Donc, effectivement, pour des enfants plus introvertis, entendre toutes ces choses-là, il n'y a aucun plaisir là-dedans. Puis, il n'y a rien de le fun à aller jouer ton sport parce que tu entends toutes sortes de choses. Et toi, à titre d'enfant, si tu l'aimes l'arbitre ou si tu es impressionné par ces plus grandes personnes-là autour de toi... Ben, ça peut devenir démotivant d'aller jouer sur le terrain sportif alors que l'enfant aime bouger puis rencontrer ses amis pareils.
Bon, là, on parle beaucoup des enfants qui aiment bouger. C'est des enfants qui jouent au soccer, au baseball, au hockey, oui. Nommez-les. Mais il y a les enfants qui, tu sais, comme Vincent quand il était petit, non? qui sont plus intello. Aujourd'hui, Vincent, petit, s'il revivait son enfance, probablement serait-il branché en intraveineuse sur sa tablette. Alors, on amène comment cet enfant-là à bouger et surtout à aimer bouger?
Ben, dans le fond, c'est ça. Le bouger pour un enfant, c'est super important à toutes les phases de son développement, mais bouger, c'est aussi prendre son vélo, sa trottinette pour aller à l'école. C'est aussi aller à la bibliothèque.
Ça, Vincent, il aime ça. C'est un sport individuel, la trottinette. Bon,
exactement. Puis je pense qu'à titre de parent, notre rôle, c'est de lui faire essayer toutes sortes de choses. Ça peut être aller lancer des balles sur le mur de l'école. Ça peut être... on a des terrains de pickleball maintenant partout à Sorel-Tracy. Ça peut être du groupe. Ça peut être de l'individuel. Ça peut être aller faire des tours de piste à l'école secondaire Fernand Lefebvre parce qu'on a un 400 mètres là. C'est de l'amener à faire plusieurs choses. Et des fois, ça peut être avec un ami qui va le faire, mais ça sera pas avec sa mère ou avec son père, ou c'est avec un parrain, une marraine. Donc, essayer des cours de groupe. Puis ça veut pas dire qu'il aime pas le sport structuré, qu'il ne sera pas actif plus tard. Je reviens au déplacement actif à vélo, à pied, la trottinette, le skate. C'est bouger, puis c'est ça qui est important.
Et la notion de plaisir doit être liée au jeu plutôt que la notion de torture.
Tout à fait. Puis on aime aussi introduire la notion de sport ou de jeu non structuré. Les laisser aller se promener sur le bord d'une rivière, sur le bord du fleuve, ramasser des grenouilles, c'est aussi... C'est une activité physique peut-être un peu moins intense que de jouer au soccer, mais c'est aussi être dehors, c'est bouger. Puis à travers toutes ces petites choses-là, l'enfant va finir par se trouver des passions, puis bouger,
okay.
À amener un mode de vie physique sain plus tard.
Bon, là, vous ne voyez pas, vous, qu'est-ce qui se passe en studio, Marie, mais il n'est pas question que Vincent aille ramasser des grenouilles. Il n'a pas l'air à avoir de goût particulier pour la grenouille.
Un sport... Ramasser des fraises ou des framboises.
Ah, ça, c'est mieux. C'est mieux. Ben, vous l'avez trouvé. Un sport d'équipe, est-ce que ça ne développe pas aussi l'esprit de communauté? Ça ne fait pas réaliser qu'on est bien plus fort ensemble en mettant en commun nos talents?
Ben, l'esprit d'équipe, l'esprit de communauté, le sentiment d'appartenance à ta municipalité, le sentiment d'appartenance à... À travers le sport, l'enfant va découvrir d'autres amis qui ne fréquentent peut-être pas à l'école. Donc, c'est des nouvelles amitiés, c'est des nouveaux parents. C'est extraordinaire comme impact là, sur le développement social d'un enfant. Puis, du parent qui est dans la foule, puis qui connaît aussi, qui apprend à connaître d'autres partenaires, d'autres futurs voisins. Donc, sur le sentiment d'appartenance d'une municipalité, la pratique de sport, super intéressant.
Bien, merci beaucoup, Marie Ouellette. Merci beaucoup de vous être prêtée à cet entretien.
Ça m'a fait plaisir.
Salut. Bye-bye. Après la pause à la tribune, on va parler avec Pierre-Paul Gervais, qui est directeur général du club de soccer du Bas-Richelieu. Harold Turbide, prof d'éducation physique et coach en football scolaire. Et on conclura le tout avec Marie et Vincent. Restez là.
Cette pause musicale vous a été présentée par le Festival Bière, Vin et Terroir, qui vous offrira gratuitement le spectacle de DJ Champion le vendredi 24 juin à 21h30 au Parc municipal de la Grange du Survenant à Sainte-Anne-de-Sorel.
La toute dernière collab entre Justin Bieber et Tim est arrivée.
Essaye mon nouveau café, Biebs Brew.
Combine ce café infusé à froid à la vanille française Biebs Brew à ton Tim Biebs favori parce qu'ils sont de retour. Pour un temps limité seulement chez Tim, dans les restaurants participants au Canada jusqu'à épuisement des stocks.
À CJSO 101.7, avec Sylvain Rochon. De retour à la tribune.
On s'intéresse à la civilité dans les sports ce midi à la tribune. Pierre-Paul Gervais est directeur général du club de soccer du Bas-Richelieu. Bonjour Pierre-Paul.
Bonjour.
Vous allez bien?
Ça va bien, vous?
Bon, vous succédez à Patrick Turgeon, de vous?
Exactement.
Oui, une grosse pointure à chaussure.
Une grosse chaussure, exactement.
Ouais, c'est ça. Ouais. C'est un sport extrêmement populaire, le soccer. Est-ce que c'est le plus populaire?
En fait, en termes d'inscription, là, je crois qu'on est le plus populaire à Sorel-Tracy. Là, on compte au-dessus de 1000 inscriptions chez nous. Donc là, officiellement, le décompte est quelque chose comme 1035 inscriptions là, à l'heure où on se parle.
Alors, il y a des 6-12 ans qui jouent au soccer, mais ça va au-delà de ça?
Ah, en fait, on commence à 4 ans. Ça va de 4 jusqu'à mon plus vieux doit avoir 57, 58, présentement.
Mon Dieu, je pourrais quasiment jouer.
Ben, il y a des équipes, ça vous tombe.
Ouais. Peut-être sur le banc. On me dit que la nouvelle vision du club est axée sur le plaisir. C'est moins important de se dépasser soi-même, de compter des buts, d'effectuer la passe parfaite, de gagner des championnats que d'avoir du fun?
Ben, en fait, je voudrais que c'est au-delà que d'une vision de club, là, c'est une vision de fédération. La Fédération de soccer mise l'emphase là, sur le développement de 4 à 12 ans. On n'est pas dans le résultat, on est dans l'apprentissage, on est dans le plaisir, on est dans le développement du joueur. Donc, il n'y a plus de classement, il n'y a plus de statistiques individuelles.
Ah non!
Tout est fait sous forme de plaisir et de jeu.
Puis là, ça, c'est relativement nouveau. Et à l'échelle du Québec?
Oui, en fait, c'est nouveau. Mettons, je vous dirais officiellement, ça le tracé depuis 2-3 ans. Ça l'est un peu moins dans les autres clubs qui ont rentré un peu avant nous dans ce nouveau programme, mais la fédération a mis vraiment ça en place officielle depuis 2 ans, je vous dirais.
Est-ce que vous avez vu s'opérer un changement sur les terrains puis dans les estrades depuis que vous êtes passé à cette nouvelle formule?
Ben en fait, je vous dirais que le plus gros changement, c'est pas tant au niveau du c'est que les jeunes aiment ça. Tout ce qui est changement est compliqué dans les sociétés. Donc, c'est petit à petit qu'il faut instaurer, en fond, la nouvelle vision. Je voudrais qu'on a... Ça s'en vient. c'est pas quelque chose qui est facile à accepter au niveau des jeunes qui voulaient jouer eux deux parties avec des arbitres. On compte les points, les feuilles de match et tout. Mais là, dans le fond, là, on a gardé quand même la formule. Dans le fond, on a un entraînement en début de semaine, puis on a le match qui vient soit le mercredi ou jeudi, là, tout dépendant dans quelle catégorie on joue. On l'a gardé comme ça. Et au niveau de nos équipes compétitives, eux, dans le fond, là, c'est beaucoup plus de développement en heure, là. Donc, ils vont entre 2 et 3 entraînements par semaine pour 1 ou 2 matchs là, aux 2 semaines.
Bon, alors, pendant les matchs de soccer, quel traitement fait-on subir aux arbitres? Est-ce que la contestation de leurs décisions, c'est une véritable plaie ou est-ce que c'est anecdotique?
Ah, en fait, chez nous, je voudrais que... Je voudrais que dans le sport, au soccer, là, et surtout avec ce qui s'est passé, qu'on a vu là, sur les médias sociaux et à la télévision, là, avec le grand-père qui a frappé un arbitre à Montréal, dans le fond, là, c'est vraiment d'actualité chez nous. Oui, il y a beaucoup de contestations. Ça vient souvent du côté des estrades que du côté du terrain. On a plusieurs problèmes, en fait, à ce niveau-là. Là, on a beaucoup de pertes d'arbitres, nous, d'année en année. Nous, nos arbitres commencent à l'âge de 12 ans à arbitrer. Ça reste que c'est encore des enfants à l'âge de 12 ans. Il faut avoir la couenne solide, il faut être prêt à ce genre d'affaires-là. Par contre, il y a des limites à ne pas dépasser. nous, on a mis en place présentement là, un comité d'arbitres. Donc, il y a 4 arbitres là, qui s'occupent de l'encadrement, du perfectionnement et du développement en fond là, de nos arbitres au sein du club. Nous, c'est autant féminin que masculin au niveau des arbitres. On touche à peu près, je vous dirais, une 50aine d'arbitres présentement au club. Mais oui, il y a beaucoup de contestations. Mais comme je vous disais, ça vient plus des estrades que du côté du terrain.
OK. Parlez-moi de la collaboration que vous offrez à la campagne de la MRC.
Bien, en fait, nous, là, on a décidé de mettre tous les logos, en fait, de la campagne là, sur nos chandails d'entraîneurs. Donc, là, on est présentement en train de faire nos nouveaux chandails d'entraîneurs là, pour tous nos entraîneurs. En fait, on parle de une soixantaine de... En fait, on parle de 120 chandails, en fait, en tout, là. Où est-ce qu'on va les écrire? On a mis ça sur nos réseaux sociaux. Il y a un communiqué qui a été fait aussi au niveau des courriels à tout le monde, en fait, là, disant que le CSBR avait pris part intégrante, dans le fond, de tout cela avec Patrick Surgeon en début, puis moi, j'ai terminé le travail. Puis, dans le fond, c'est ça, là, dans le fond, on sait qu'on va avoir des pancartes sur nos terrains, mais l'important, nous, c'est tolérance zéro au niveau des arbitres. J'écoutais là Madame Provençal, on n'a pas, nous, à proprement dire, un code d'éthique. Nous, il vient plus de la fédération. Donc, nous, on n'a pas eu à monter un code d'éthique, mais les gens, en s'inscrivant, se soumettent à des règles de Soccer Québec. Donc, c'est des choses qu'ils doivent comprendre lors de l'inscription.
Ben merci, Pierre-Paul Gervais. Merci et bonne saison de soccer.
Et merci à vous.
Merci. Salut. Bye-bye. Harold Turbide est un prof d'édu bien connu, beaucoup en raison de son rôle de coach au football scolaire. Bonjour, Harold.
Bonjour, ça va bien?
Très bien. Qu'est-ce que tu penses de cette campagne de la MRC là, sur la civilité dans les sports? C'est une bonne idée? Ça s'imposait?
Écoute, c'est la chose la plus importante. Là. On a de plus en plus de pratiques à ce niveau-là dans plusieurs sports. Dans le nôtre, on a parfois la chance que les gens connaissent peu ou moins ça. Donc, souvent, les arbitres sont moins pris à partie, si tu veux, que dans les sports comme le hockey où tout le monde pense qu'ils connaissent le sport. Donc, nous, c'est quelque chose où on inculque dès le départ à nos jeunes que quand on parle d'un arbitre, c'est monsieur l'arbitre. Et on argumente très peu. C'est ma job à moi d'argumenter, si tu veux, avec les arbitres. Donc,
puis tu fais ça posément.
Des années d'avoir une bonne relation, justement, avec eux.
Hein, quand tu argumentes, toi, tu fais ça posément.
Oui. En fait, je te dirais, dans les rendez-vous, je me rends compte avant le début du match. Et je te dirais que ma première c'est à peu près toujours la même. Je leur dis que s'ils font une erreur, plutôt que d'essayer de refaire, d'arranger une erreur par une autre erreur, ils font juste me dire, « Hey, coach, j'ai fait un mauvais coach. » À partir de là, les discussions sont assez terminées. Puis au football, quand tu veux, quand tu rencontres un arbitre, tu vas toujours aller avec le point du règlement. Donc, moi, je commençais toujours en disant, écoute, le point de règlement, c'est ça. Est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce qui est arrivé dans cette situation-là?
OK.
Ça, ben, ça se passe assez bien, je te dirais.
D'accord. Tu feras attention parce qu'on te perd par moment. La communication est moins bonne. Bouge pas trop sur le terrain. Regarde ta position. Ça commence à faire quelques années que tu coaches. Comment le comportement des parents dans les gradins et des joueurs sur le terrain a-t-il évolué au fil des ans? Est-ce qu'il a évolué positivement ou négativement? Oups! Il a décidé de rentrer dans la chambre des joueurs, on dirait. C'est fini. Ah non, il est là. Oui, Harold.
Est-ce que
on t'entend difficilement. C'est pas facile. Je te donne une seconde. Avez-vous un commentaire à faire pendant qu'il se déplace sur le terrain, là, qu'il change de position?
Mais c'est super intéressant. C'est juste ça que j'ai dit.
As-tu changé de position, Harold?
Oui.
Bon, OK. Alors, je te demandais, je vais reprendre ma question, là. Ça commence à faire quelques années que tu coaches. Est-ce que comment a évolué le comportement des parents dans les gradins et des joueurs sur le terrain au fil des ans? Est-ce qu'il a évolué positivement ou négativement?
Bien, pour les joueurs, comme c'est nous autres qui font qui leur expliquent nos attentes face à l'arbitrage, ça s'est pas modifié. Nous autres, c'est toujours dans le respect. C'est sûr qu'au niveau des parents, bien, maintenant que les joueurs, les gars jouent, mettons, depuis souvent le primaire, fait que là, il y a quelques personnes qui deviennent un peu plus, comment je pourrais dire, qui comprennent un peu plus la game, puis eux autres, ben, à ce moment-là, c'est sûr qu'ils sont plus argumentaires. Mais
en même temps, nous, on s'organise pour que les arbitres soient bien là, là-dedans. Fait que c'est, j'ai jamais vu, moi, au football, un parent embarquer sur un terrain et donner de la merde à un arbitre. Parce que si ça arrivait, moi, je traverserais le terrain et je retournerais le parent s'asseoir dans les estrades.
Tu lui trouverais une toilette. Ouais. OK. Hey, Harold, merci beaucoup. On t'entendait très bien à la fin. Merci beaucoup, Harold.
Parfait, merci.
Bon. Salut. On conclut cette émission avec Vincent Deguise, président du Comité régional en développement social de la MRC, et Véronique Massé, coordonnatrice de la politique familiale des aînés. Cette émission-là, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je trouve qu'elle va avoir confirmé le besoin de tenir cette campagne de civilité dans les sports. J'aimerais ça vous entendre un retour sur ce que vous avez entendu ce midi l'un et l'autre, là.
Bien, effectivement, elle confirme le besoin de la campagne. Je pense que l'ensemble des intervenants qu'on a eus aujourd'hui nous l'ont dit, c'est une problématique dans le sport. Il faut l'adresser, il faut en faire la promotion de la civilité dans les sports. Puis là, je vais aborder peut-être plus l'aspect municipal, l'aspect ville dans tout ça. On a le sport, puis ça se fait dans des infrastructures, ça se fait dans nos municipalités, sur les terrains de soccer, dans les arénas, sur les terrains de football qui sont dans nos villes. Bien, comme municipalité aussi, il faut se dire pourquoi on appuie ce genre de campagne-là. C'est qu'est-ce qu'on veut laisser à nos jeunes, puis qu'est-ce qu'on veut qui se passe sur nos espaces municipaux. Qu'est-ce qu'on veut laisser aussi aux gens qui viennent nous voir? Parce qu'on a du monde qui vient chez nous, là. C'est pas une problématique juste ici, mais c'est une problématique à grandeur du Québec, là. Mais qu'est-ce qu'on veut donner comme exemple aux gens qui viennent nous voir dans nos municipalités, dans nos villes? Donc, c'est important.
On veut pas avoir l'air d'une ville de sauvages.
Non, exactement. Hein? On veut avoir l'air accueillant.
C'est peut-être arrivé une couple de fois. Dans les ligues, dans d'autres ligues, disons. Dans les ligues plus... où évoluent des joueurs un peu plus âgés. Peu importe le sport, vous êtes son modèle, on s'adresse aux parents pour rejoindre les 6-12 ans. Pourquoi les 6-12 ans plus spécifiquement? Vous pensez qu'après 12 ans, ils vont avoir pris des mauvais plis dont il va être difficile qu'ils se départissent? Pourquoi 6-12 ans, Véronique?
Oh mon Dieu, c'est une excellente question. En fait, pour nous, c'est juste la suite logique. Là, quand on réfléchit, on a tout le temps le 0-5 ans, le 6-12 ans qui est plus la portion primaire, puis après ça, le 13-16-17 qui est la portion secondaire. Donc, on parle du 6-12 ans. Mais c'est aussi peut-être parce que c'est l'endroit où le parent est davantage investi. Tu sais, entre 6 et 12 ans, on doit... souvent, le parent est présent, il s'implique. Le rôle de modèle est encore très, très important. Je vous dirais que, en tant que parent, on est heureusement ou malheureusement, là, ça c'est selon la situation, mais on est des modèles pour nos enfants toute notre vie. Mais peut-être que le 6-12 ans, c'est particulièrement spécifique au niveau du rôle de modèle dans les sports.
On arrive à la fin de l'émission. Alors, oui. En un mot, là, comment va se déployer la campagne? Qu'est-ce qu'on va voir apparaître bientôt? Là?
Mais M. Pierre-Paul Gervais l'a mentionné,
oui,
dans le fond.
Là,
oui,
mais
sur les chandails des entraîneurs, oui. On va avoir un rappel de la campagne. On est en train de développer aussi un projet pour reconnaître l'esprit sportif à travers le territoire, des affiches aussi, les réseaux sociaux. Donc, ça va être surtout ça, les éléments de la campagne. On travaille là, pour les arénas aussi pour l'automne. Donc, amener nos messages clés, dans le fond, dans le milieu du hockey, du patinage artistique. Qui sait, on va peut-être voir une Zamboni habillée, on ne le sait pas, on va voir. Donc, c'est ça, pour la suite des choses, on devrait être un peu partout.
Bien, bravo, bravo, bravo pour cette campagne à la MRC de Pierre de Sorel et ses partenaires. Merci Vincent Deguise, merci Véronique Massé.
Toujours un plaisir.
Merci à l'ensemble de mes invités, Guillaume Thibault, Luc Diane, Marie Ouellette, Bianca Provençal, Pierre-Paul Gervais et Harold Turbide. À compter de mardi prochain, la Tribune va prendre un air d'été. On va entreprendre à Massuville notre tournée estivale des municipalités. Bonne semaine à tous et à la prochaine.